Bienvenue chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Depuis que je fais de la radio, un quart de siècle pour ne rien vous cacher, j'ai toujours pensé que mes émissions devaient avant tout vous distraire. Essayez en tout cas. La vie n'est certes pas un long fleuve tranquille et le quotidien de tout un chacun peut quelquefois être pesant. Voilà maintenant 25 années que derrière mon petit micro rouge, je vous parle des choses que j'aime et de mes rêves. J'ai fait de la maxime de Françoise Dorin la trame de tout ce que je produis ici. M'angoisse tout ce qui pourrait m'empêcher d'être gai. Soyons donc, vous et moi, joyeux et plongeons-nous avec délice dans le monde du luxe et de l'excellence. Et ce, sans modération, contrairement à ce qui suit. Louis XIV à Versailles et le tsar à Saint-Pétersbourg buvaient déjà du toquet. Vinum regnum rex vinorum, cette expression n'a rien de publicitaire. Elle est, semble-t-il, de Louis XIV qui buvait du toquet. Le tsar de toutes les Russies s'y a donné fortement et les Habsbourg possédaient un vignoble à toquet. Lequel, du Côte-Nari, du Rust ou du Toquet, est le plus ancien vin liquoreux issu de raisins botrytisés, pourriture noble. Nous ne trancherons pas, ils sont d'ailleurs plus proches géographiquement. Cela se passe à la fin du XVe siècle, soit environ 2 siècles avant que le Sauternais ne produise ce type de vin. La vinification est très particulière. Le vin se construit par étapes. Dans du vin blanc sec, on incorpore pour une refermentation une certaine quantité d'azus, c'est-à-dire de grains nobles complètement pourris que l'on a triés un à un. Ils sont rassemblés dans des hottes contenant 20 kilos d'azus nommés putignos, d'où les toquets 3 putignos, 5 potignos, etc. L'exantia n'est pas un vin, mais un jus issu spontanément des grains azus, si sucré qu'il ne fermente pratiquement pas. On peut en rajouter en cours de vinification. Dire « toquet de Hongrie » est un pléonasme, nous dit Christian Flasselière, puisque l'autre, celui d'Alsace, a dû désormais s'appeler « pinot gris ». En fait, ils n'ont pas grand-chose en commun. Celui de Hongrie est issu de la courte macération des grains botrytis dans un vin de base. Il s'ensuit une deuxième fermentation lente qui peut dépasser 2 ans. Après la chute du mur de Berlin, ce vignoble est reparti à la conquête de sa gloire passée. Mais la vie a changé. Il n'est plus la récompense, le reconstituant après une journée de cheval. Alors comment le boire? Le foie gras, bien sûr, les fromages à pâte persillée, évidemment, Roquefort par exemple, quelques viandes blanches rôties. La vraie place des toqués de Hongrie est assurément le dessert. Ou l'apéritif, à mon avis. Et rien n'interdit de leur ajouter un peu de cardamone, verte si possible, elle est moins forte, ou de gingembre, pour faciliter grandement le mariage. Le toqué répond présent quand bien d'autres vins déclarent forfait. Essayez-les sur une tarte aux pommes, ou mieux, une tarte au coin, c'est parfait. Un gâteau au chocolat, un éclair au café, des crêpes Grand Marnier, une crêpe brûlée, ou tout simplement une salade de fruits à pépins. Pommes, poires, pamplemousses, etc. qui auront macéré dans ce toqué pendant quelques heures. Allons, la gourmandise, Dieu merci, a encore de beaux jours. Le 22 mai 2015, Stéphane Reynaud racontait dans le Figaro l'anniversaire de la maison Martel. Martel, l'art d'être jeune quand on a 300 ans. La maison de Cognac a fêté son tricentenaire sous les ors du château de Versailles en proposant une version pop et rafraîchissante de l'art de vivre à la française. À ceux qui l'auraient oublié, Martel rappelle que le cognac est un alcool puissant. Et pas uniquement en bouche. Mercredi soir, la traduction de cette vigueur passait par un événement hors norme. Martel a 300 ans. Âge canonique. Et pour l'occasion, la marque, propriété de Pernod Ricard depuis 2001, s'est offert une réception au château de Versailles. 300 invités venus de Chine, du Vietnam, du Kazakhstan, d'Afrique du Sud et d'ailleurs. Bouche bée devant la performance de la patrouille de France qui ouvre le bal. Le vacarme des réacteurs prend le dessus sur les haut-parleurs qui envoient un lully trop attendu. Décoiffant, le général Denis Mercier esquisse un sourire de satisfaction. Il a fallu détourner le trafic aérien classique pendant 20 minutes pour réaliser cette performance. Et Solange Knowles, la sœur aux cheveux bleus de Beyoncé, trouve le spectacle amazing, un bon début de soirée. À l'automne dernier, déjà, le Figaro visitait les appartements privés des maîtresses de Louis XV, en compagnie de Philippe Guetta, le patron de Martel. C'était à la faveur du raout du comité Colbert qui rassemble les maisons françaises du luxe et des institutions culturelles, dont l'institution cognacaise ou cognacaise est membre. Cette dernière compte aussi parmi les mécènes du château, participant entre autres à la restauration du décor de l'antichambre de la reine et à celle du salon de l'abondance. Ça leur va bien. Une pièce au plafond peint par René-Antoine Houas. Au regard de ses engagements, le choix du château construit par Louis XIV pour célébrer les 300 ans est venu naturellement, explique Elisabeth Ricard, largement investie dans l'organisation de l'anniversaire. En 1715, le roi Soleil passait le flambeau à son arrière-petit-fils et Jean Martel, originaire de l'île de Jersey, se lançait dans le négoce d'eau de vie. Fin businessman, 6 ans plus tard, il exportait 200 000 litres de cognac. 3 siècles après, la France, son histoire, ses plaisirs de la table, son artisanat d'art est un label extraordinaire pour vendre ce produit unique au reste du monde. À condition d'éviter le piège de la célébration poussiéreuse, avec dorure et marbre à gogo. Le cognac est désormais une boisson branchée de Shanghai à Los Angeles, en passant par Lagos ou Moscou. En revanche, en France, il n'est pas encore revenu dans l'air du temps. Si les barmans des hôtels parisiens dans le cool chèque de formidables sidecars, cognac, triple sec, jus de citron, et le summit, cognac, gingembre, limonade, citron vert, tout ça encore une fois avec modération, est l'une des plus belles créations de la mixologie contemporaine, le noble alcool a encore fort à faire pour damer le pion aux conquérants au whisky. Évoquez le nom de Martel aux plus jeunes, ils vous répondront 9 fois sur 10 « Game of Thrones », en référence à l'un des clans de la série télé à succès, un autre carton planétaire. Sur le perron du château de Versailles, les photographes n'en ont que pour Diane Kruger, la nouvelle égérie de la marque, actrice chic et sans histoire. Si Martel était un acteur, je l'aurais plutôt imaginé large d'épaule, fonceur et forte tête. Un mix entre Sean Penn et Matthew McConaughey, s'amuse un invité. Mais la maison ne voyait pas les choses ainsi. Et d'ailleurs, Diane Kruger est superbe dans sa robe. Tout de même, une Allemande, pour incarner le rayonnement d'une marque française, renchérit le Tatillon. La dernière reine à avoir occupé les lieux était elle aussi née de l'autre côté du Rhin ? Le coupe un autre hôte. Le feu d'artifice est tiré dans les jardins. Et l'amphitryon retient encore la nuit dans une ambiance de clubbing. C'est donc point de vue que Marie-Eude Loriot-Prévost racontait la soirée et notait la présence au château de quelques privilégiés qui admiraient l'édition limitée créée pour l'occasion par Bernard Venet. L'actrice anglaise Naomi Harris, l'actrice Diane Kruger, ambassadrice de la marque Martel, et Philippe Guetta, PDG de Martel, Moom et Perrier Jouette. La galériste Victoire de Pourtalès et son mari, Benjamin Hémer, directeur général du groupe Jaloux. Daniel Ricard, présidente du conseil d'administration de Pernod Ricard. Le couturier Jean-Charles de Castelbajac, entouré de ses fils, Louis-Marie et Guilhem. Bien sûr, les 9 pilotes de la patrouille de France, entourant Catherine Pégard, présidente de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles. Et aussi le général Denis Mercier, chef d'état-major de l'armée de l'air. Et aussi Olivier Josse, directeur des relations extérieures du château de Versailles, aux côtés du sculpteur Bernard Venet et de son épouse Diane. Il y avait le chef Alain Ducasse, juste avant le passage de la patrouille de France au-dessus des grandes eaux. Il est photographié, les bras croisés, comme à son habitude. D'ailleurs, pour rester avec Alain Ducasse, Sandrine Roudex avait-elle, dans la version féminin, flashé carrément sur lui. Je l'invite à avancer dans la partie entremets. Il empoigne les légumes et prend la pause. Ils viennent du jardin de la Reine à Versailles, où Alain Baraton les cultive bio, exprès pour nous, et de me raconter son nouveau restaurant mitonné dans le domaine du Roi Soleil et baptisé Auré. En hommage au plaisir du palais ancré dans l'art de vivre à la française. Un rêve de jeuneau. Il avait 18 ans et venait d'être embauché à Paris lorsqu'il a découvert les lieux. Jamais il n'aurait pensé y œuvrer un jour. Vous pouvez tourner la tête. Il s'exécute, me décrivant le cadre écrin du pavillon du four qui s'ouvre sur la cour d'honneur. Côté pile, en journée, des menus pour tous, imaginés par le chef Stéphane Duchiron. Côté face, en nocturne, des dîners événements, servis dans les salons restaurés, cuisine et porcelaine de Marie-Antoinette rééditées. Un regard ourlé tandis que je déclenche. Je n'ai pas l'air trop gentil. Pas le temps de le rassurer qu'il pivote sur ses sous-chefs. Ça va? Puis, les voyant pliés comme des lampes de bureau sur leur plat. Souriez, on va croire que vous êtes malheureux. La troupe rigole, sans cesser pour autant de s'activer, tandis qu'Alain Ducasse m'offre son bouquet de légumes. Il y a tant de choses à inventer. Clic-clac. Maître vinaigrier du roi. Antoine Claude Maille. Vinaigre, moutarde, condiment. Maille est un nom familier sur toutes les tables de France. En revanche, on sait moins qu'avant de devenir le fournisseur officiel des cours d'Europe, la famille Maille s'est illustrée en créant des vinaigres cosmétiques et médicinaux. Par Pierre Arnaud, pour Point de vue. En 1742, quand Antoine-Claude Maille prend la suite de son père, il élabore dans la tradition familiale des potions thérapeutiques et cosmétiques destinées à une clientèle aristocratique fortunée. Vinaigre de Vénus, de la reine, à la dauphine, ou de virginité, qui fera dire à l'essayiste et romancier Grimaud de la Reynière. L'un des vinaigres de Monsieur Maille rend aux femmes quelque chose qu'elles ne pouvaient jusque-là perdre qu'une seule fois. À la fin de sa carrière, la maison comptera plus de 200 de ses élixirs. Des vinaigres d'assaisonnement et des moutardes également, qui lui permettent d'accéder au rang des fournisseurs officiels de la cour de Louis XV. En 1747, après l'installation d'une première boutique parisienne, rue Saint-André-des-Arts. La clientèle d'une parisienne et gastronome distinguée, Jeanne, marquise de Pompadour, favorite du bien-aimé et la plus influente des femmes du royaume, assied sa fortune. En 1769, Antoine-Claude n'est plus seulement fournisseur de la cour, mais distillateur vinaigrier ordinaire du roi. Et comme la France dicte alors le bon goût au reste de l'Europe, heureuse époque, les grandes cours suivent la mode. Sur les pots de moutarde en grès vernissé s'inscrit désormais la formule « Seuls vinaigriers du roi et de leur majesté les empereurs d'Autriche et de Russie ». François Ier et Marie-Thérèse à Vienne, comme la grande Catherine II à Saint-Pétersbourg, relèvent leur plat de viande d'une pointe de moutarde maille. Peu se souviennent toutefois que l'aventure familiale a débuté par un drame, à Marseille, quelques décennies auparavant. Le 25 mai 1720, sur l'île de Pomègue, à quelques encablures du vieux port, a accosté le Grand Saint-Antoine, un navire en provenance du Levant. Dans ses cales, une précieuse cargaison d'étoffes de soie et de balles de coton que 5 armateurs de la cité phocéenne comptent vendre en juillet à la foire de Beaucaire. La dizaine de morts survenues durant la traversée n'a pas suffi à convaincre les négociants de renoncer à leur profit. Et les ballots de marchandises, infestés de puces porteuses du bacille de Yersin, vont bientôt transmettre la peste à la ville entière, qui va perdre en moins de 4 mois la moitié de sa population. Ni les prières de Monseigneur de Belzunce, l'archevêque de Marseille, ni les fumigations composées de soufre et d'arsenic des médecins ne viennent à bout du fléau qui se répand bientôt en Provence. Le père d'Antoine Claude Maille, distillateur vinaigrier, exhume alors d'un grimoire la recette d'un vinaigre des 4 voleurs, qui aurait protégé des brigands détrousseurs de cadavres durant l'épidémie de peste de Toulouse 100 ans plus tôt. Sa préparation, constituée de plantes antiseptiques comme l'absinthe, la menthe, l'ail, la lavande, la sauge, macérée dans du vinaigre, je vous redonnerai les ingrédients de cette potion salvatrice, se boit mélangé à de l'eau et sert en friction à se désinfecter les tempes et les mains. Et si elle n'est pas beaucoup plus efficace que les autres remèdes, elle assure sa renommée et celle d'Antoine Claude, son fils, futur vinaigrier du roi. Quand éclate la Révolution française, ce dernier, désormais premier homme de moutarde de l'Europe, s'associe à André Arnoux Acloc, commandant général de la garde nationale et ancien brasseur. La production des vinaigres se poursuit. Pour la table, aromatisée à l'estragon, au basilic, à la ciboulette, de parfum à la lavande, au benjoin, à la marjolaine, de propriété à la fleur de citron pour soigner les boutons, sceptique pour effacer les rides, fondant contre les corps aux pieds. 4 ans avant son décès, en 1804, Antoine-Claude Maille vend ses parts de la firme à son associé, à charge pour lui de verser une part du capital à son fils mineur, Robert Maille. L'héritier, toutefois, ne compte pas jeter l'éponge vinaigrée. À sa majorité en 1819, il choisit de collaborer avec André Gabriel Alcock, fils de l'associé de son père, pour poursuivre ensemble l'aventure épicée. Les orages de la Révolution et l'Empire passé, Louis XVIII, de retour sur le trône de ses ancêtres, rend à la maison Maille son titre de fournisseur du roi, privilège qui se poursuivra sous les règnes de Charles X et Louis-Philippe Ier. En 1830, Maille devient aussi fournisseur de la cour d'Angleterre par concession du roi George IV et finalement, en 1831, c'est Robert qui rachète ses parts de l'entreprise à Alcock fils. Maille redevient Maille. Marie-France Guimard-Roche vous retrouvera à Versailles dans une autre émission de Bienvenue chez le roi, enregistrée et réalisée par Roland Richard dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel.